Il est 6h02 à la météo aujourd'hui. Ben pas juste aujourd'hui, là, pour aussi loin qu'on puisse regarder, c'est du beau temps. Alors, le pire qu'on va avoir, c'est en fin de semaine prochaine avec alternance de soleil et nuages. Mais le reste, là, c'est tout au beau. Alors, ensoleillé aujourd'hui avec 27 degrés, quelques nuages pour la nuit prochaine, mais on s'en fout un peu, là. 17 degrés, mercredi, généralement, soleil fera 28. Soleil, jeudi, vendredi, 29 degrés. Alternance soleil et nuages, 28 pour samedi. À peu près la même chose pour dimanche. Et alternance soleil et nuages aussi avec 29 degrés pour lundi. Alors, allez en paix, chers vacanciers. Si vous avez la chance, n'est-ce pas, de pouvoir sillonner les routes du Québec, ben sachez qu'il va y avoir moins de monde parce que les vacances de la construction sont finies, mais aussi, il va faire beau. Alors, c'est parfait. Il fait 16 degrés en ce moment à Montréal. Bien sûr, dans les différents quotidiens, on parle de cette fusillade qui est survenue à Rivière-des-Prairies hier. On sait maintenant que c'est 3 personnes et non 2 qui sont malheureusement décédées dans ce nouvel acte de violence qui frappe la ville de Montréal. Une fusillade qui a encore éclaté en début de soirée. Et là, ça inquiète beaucoup les gens du secteur. Parce que il y a des résidents là-bas qui craignent pour leur vie. Écoutez, il y a des familles, des enfants qui circulent dans les rues. Il y a une dame qui dit: j'ai couché mes 2 filles de 5 et 6 ans. J'ai dit à mes 2 filles de 5 et 6 ans de se coucher par terre. La mère de famille vit dans un logement qui est à quelques mètres seulement de la Seine. Elle a eu tellement peur qu'elle a demandé à ses enfants de se coucher. Imaginez, qu'est-ce que tu dis aux enfants par la suite? Alors, elle a dit que c'était des feux d'artifice puis pour essayer de pas les inquiéter, mais quand même, ça suscite énormément d'inquiétude là-bas. À 19h hier, de nombreux coups de feu ont été tirés en direction d'un immeuble du boulevard Perras. Et il y en a eu beaucoup, dit-on, une quinzaine. On a entendu tout à l'heure que c'était une espèce de rafale. Ça ressemblait à de l'arme automatique, selon un témoin entendu sur les lieux. Alors, il y a des gens qui commencent à dire: ben, on aimerait bien ça, nous autres, déménager, parce qu'on trouve que ça s'en vient un peu dangereux, parce que c'est pas le premier événement dans le secteur. Mais on va aller où avec la pénurie de logements et les prix qui sont à la hausse? Alors, c'est l'inquiétude que les gens ont, savent pas trop où aller, ils sont pris un peu là-dedans. Et l'autre grosse nouvelle, c'est cette information dont nous parlait tout à l'heure Sabrina, la maman de cet homme qui a été abattu hier, plutôt dimanche, dans le secteur de Repentigny, comprend pas, elle veut avoir des réponses. Elle dit: j'ai appelé pour de l'aide et on a tué mon fils. C'est ce qu'a dit Marie Mireille Benz, qui est la maman de cet homme de 37 ans qui a été abattu par les policiers de Repentigny. Pendant ce temps, la directrice de la police là-bas, Mme Hélène Dion, a dit qu'elle comprenait la réaction de la communauté qui est dévastée par la mort de cet homme noir. Nous comprenons que cette situation ébranle notre communauté, nos policiers ainsi que la famille et les proches de la victime auxquels nous offrons nos sincères et profondes condoléances. C'est ce qu'a dit Mme Dion. Elle dit également que l'événement n'est pas... elle dit: aujourd'hui, notre priorité est de nous concentrer sur les faits. Nous savons que la population a beaucoup de questions et nous en avons aussi. Il nous manque encore des informations pour pouvoir déterminer avec certitude le déroulement des événements. C'est ce qu'a dit Madame Dion. Mais on comprend que dans la famille, il y a beaucoup d'incompréhension et que ça... Tu sais, visiblement, c'est quelqu'un qui était en détresse psychologique, là. Et malheureusement, ça s'est terminé par un décès. Bon, à part ça, tiens, j'ai envie de parler un peu de pandémie. Ça fait bien 5 minutes qu'on n'en a pas parlé. Mais il y a des événements qui sont des éléments, en fait, qui sont assez préoccupants. Bien sûr, on parle de cette fameuse 4e vague qui est à peu près sûre là, d'arriver à plus ou moins long terme. Mais est-ce qu'elle va avoir l'impact qu'avaient les 3 autres vagues sur la santé publique? Là, on peut commencer à en douter. Avec plus de 150 nouvelles contaminations quotidiennes annoncées lors des 3 derniers jours, le Québec se dirige inévitablement vers une 4e vague. C'est ce qu'on peut lire dans le journal Le Devoir. Alors, est-ce que la réouverture des écoles, les changements de température et la progression du variant Delta vont causer des recrudescences de cas dans la province? Le docteur Gaston Deserre, qui est médecin à l'Institut national de santé publique du Québec, croit que oui. Il dit: une étude japonaise réalisée au début de la pandémie évalue que pour une personne infectée, les risques de transmettre le coronavirus étaient 19 fois plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, et en plus de ça, plus il fait chaud, moins le virus a le goût de se propager. Alors, donc, si vous êtes à l'intérieur, l'air frais va également être plus propice à la propagation du virus. Donc, le variant Delta poursuit son avancée au Québec. Il y a 350 cas qui sont répertoriés. Il y en a d'autres qui sont à l'étude. Et on dit que c'est aussi contagieux que la varicelle ou encore le rhume en ce moment. Alors, c'est vraiment inquiétant. Mais en même temps, quand on regarde les autres statistiques, oui, le nombre de cas augmente, mais les hospitalisations n'augmentent pas au même rythme. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Probablement parce que les gens sont vaccinés. La majorité des gens de 70 ans et plus sont bien vaccinés avec deux doses de vaccin au Québec. Mais selon les projections, là, on pense que les hausses de cas vont arriver, mais pas nécessairement suivies par les hausses d'hospitalisation ou de gens qui vont être aux soins intensifs. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Mais il reste que ça demeure important, la vaccination. Et quand on regarde les statistiques, au Canada, un article intéressant dans la presse ce matin, ce sont les hommes, et particulièrement les jeunes hommes, qui tardent à se faire vacciner. Là, on parle des hommes là, de la tranche de 18 à 29 ans, je pense, 18-29 ans au Québec. Alors, ils tardent plus que les femmes à se faire vacciner contre la COVID-19, et ils sont également moins prompts à aller se faire dépister. Ils sont plus nombreux à se retrouver aux soins intensifs après avoir contracté la maladie parce que souvent, ils ne se sont pas fait dépister puis sont mal vaccinés. Alors, les femmes sont toujours mieux vaccinées que les hommes, note Ève Dubé, qui est chercheuse à l'Institut national de santé publique. Mais pas juste pour la COVID, là, on parle d'à peu près tous les vaccins. Les femmes se font vacciner plus rapidement que les hommes. Selon les données de Santé Canada, écoutez bien les statistiques, c'est intéressant, 72 % des femmes avaient reçu au moins une dose de vaccin au 24 juillet, contre 68 % pour les hommes. Et quand on parle des deux doses, c'est 58,6 % pleinement vaccinés chez les femmes et 52 % chez les hommes. Alors, c'est quand même assez marquant là, comme différence entre les deux. On sait que les jeunes hommes ont la perception des risques les plus faibles par rapport à la COVID-19. Alors, peut-être qu'il y a un message là-dedans. Il faudra peut-être se faire vacciner davantage si on veut essayer de prévenir le transfert de la maladie. Et ça, là, on se posait des questions parce qu'hier, on a vu les statistiques qui étaient à la hausse là, de 501 cas en trois jours. Mais c'est à Trois-Rivières qu'on retrouve le plus grand nombre de cas en ce moment per capita. Alors, l'épicentre de cette vague-là, j'allais dire la quatrième vague, mais on ne peut pas nécessairement dire qu'on est dans une quatrième vague en ce moment, mais il reste que c'est à Trois-Rivières qu'on retrouve ça. Il y a même des établissements du centre-ville de Trois-Rivières qui ont pris la décision de fermer leurs portes temporairement pour justement essayer de contrer la flambée de nouveaux cas de COVID-19. On fait ça de manière préventive. Le Randolph Pub Ludique, le Rooftop et le Jack Saloon sont trois établissements qui sont situés sur la rue des Forges qui ont annoncé qu'ils prenaient une pause, là, le temps de faire en sorte de permettre aux employés, entre autres, d'aller se faire tester, même s'ils n'ont pas eu de recommandations en ce sens qui venaient de la CNESST. Ils l'ont fait par eux-mêmes et les directions souhaitent donner le temps à leur personnel d'aller se faire dépister. Certains recommandent à leur clientèle de faire de même pour éviter une propagation. Alors, si vous avez visité ces établissements-là au cours des derniers jours, le Randolph Pub Ludique, le Rooftop et le Jack Saloon, dans le Nouvelliste ce matin, on dit peut-être allez vous faire tester pour le fun. Il y a un nettoyage aussi qui doit être fait de ces établissements-là pour faire une désinfection. Et Trois-Rivières connaît une flambée de cas avec 39 des 68 cas enregistrés au cours de la dernière fin de semaine en Mauricie, centre du Québec. Il y a 111 cas actifs, 18 au centre du Québec. Et avec 76 cas actifs, Trois-Rivières est d'ailleurs la pire ville au Québec avec un taux de 52,8 par 100 000 habitants. Alors, c'est quand même assez élevé, ce qui fait en sorte que la région de la Mauricie-Centre du Québec est actuellement l'épicentre de la pandémie. Si vous voulez comparer, là, c'est 52,8 par 100 000 habitants à Trois-Rivières et c'est 24,4 par 100 000 habitants à Montréal. Alors, c'est quand même... Il y a une bonne différence entre les deux et c'est vraiment à Trois-Rivières que la pandémie actuellement là, sévit. Autre cas, en fait, autre conséquence, si on veut, de la pandémie, il y a énormément d'avortements tardifs qui ont été faits au Québec, plus que d'habitude, en fait, au cours de la dernière année en raison de la COVID. Normalement, au Québec, là, les avortements tardifs, ça se fait très rarement, sauf quelques cas d'exception. Là, je vais vous donner une idée. En 2018-2019, il y a eu 21 avortements tardifs. Ben, l'année passée, en 2020-2021, c'est 36 qui ont été faits. Pourquoi? Parce que normalement, on envoie les Québécoises qui doivent subir un avortement après 23 semaines aux États-Unis, parce que là-bas, on le fait, puis ici, on le fait moins. Or, à cause de la pandémie, les Québécoises n'ont pas pu y aller, de sorte qu'on a dû les faire ces avortements chez nous. Et donc, entre avril 2020 et mars 2021, 36 Québécoises ont subi une interruption volontaire de grossesse, un avortement de troisième trimestre. Et ces chiffres n'incluent que les patientes qui sont passées par le CIUS, de centre-sud de l'île de Montréal, parce que c'est le plus important. Ailleurs, on ne compile pas les données. Alors, c'est vraisemblablement beaucoup plus important que ça. Et donc, ça a une conséquence assez importante. Et là, il y a des médecins qui ont fait ces avortements tardifs qui, semble-t-il, ont subi du harcèlement et de l'intimidation par leurs collègues. Des médecins qui pratiquent donc les avortements, qui souhaitent pouvoir soigner les femmes sans tabou, sans être intimidés. On va respecter votre objection de conscience de ne pas le faire, mais respecter la conscience des médecins qui décident de le faire. C'est ce qu'a dit une personne qui gère, si on veut, le programme là et qui a requis l'anonymat parce qu'il ne veut pas être justement stigmatisé en raison de ça. Alors, vous voyez que ça a toutes sortes de conséquences que cette pandémie est pas tout le temps heureuse. Et pendant ce temps, de façon plus légère, sur la côte nord, Radio-Canada nous apprend que dans le secteur de Sept-Îles, si vous voulez avoir un skidoo neuf, ça va être difficile parce qu'ils sont tous vendus en ce moment. Et ça, bien, c'est une des conséquences de la pandémie, justement, selon les propriétaires de différents établissements là-bas. L'ensemble des pénuries dans le domaine du plein air, bien, la pandémie a eu son rôle à jouer parce que les gens ont découvert des activités. T'sais. Je veux dire, quand tu as de l'argent que tu dépenses pas parce que, mettons, pour moi, tu peux pas aller dans le sud ou tu peux pas voyager. Alors, les gens ont dit, on va rester chez nous puis on va faire de la motoneige. Alors, les motoneiges qui ont été précommandées, parce que souvent, tu précommandes ta motoneige à l'automne pour la pas à l'automne, mais au printemps pour la recevoir à l'automne. Mais là, tout est vendu en ce moment. Tous les bolides qui sont entreposés dans la cour atelier Laforge à Sept-Îles, qui vend des motoneiges, tout est vendu en ce moment. On parle vraiment d'une pénurie là-bas. On parle de 60 motoneiges qui ont été prévendus, contrairement à 20 par les années précédentes. Alors, si vous cherchez des skidous à la Côte-Nord, puis ça doit être à peu près pareil partout, c'est plus difficile à trouver. C'est la même chose avec les voitures. Je voyais les camions, entre autres, qui partent de façon très rapide. Puis tous les véhicules récréatifs, en général, partent très, très rapidement. Et à part ça, vous savez, on a beaucoup parlé de ce vol de données chez Desjardins, là, qui est survenu il y a 2 ans maintenant. Ben, il y a un nouvel employé de Desjardins qui est visé par les enquêteurs, un directeur de compte chez Desjardins qui aurait envoyé des informations confidentielles à des prêteurs privés qui sont soupçonnés de s'être échangé des renseignements volés aux clients de Desjardins. Et on le sait parce qu'il y a eu des affidavits qui ont été remplis par les policiers qui enquêtent là-dedans pour justement essayer d'avoir davantage d'informations provenant de Desjardins, entre autres choses, de l'enquête interne. Alors, ce qu'on sait, c'est que il y a un homme qui s'appelle Julien Ouellette qui est présenté comme directeur corporatif de compte au centre des entreprises de l'Apocatière. Donc, qui lui aussi là, serait visé par l'enquête des policiers. Ce qu'on a appris aussi, c'est que vos données, mesdames, messieurs, là, avec tous les problèmes que ça vous a amenés, puis les maux de tête, puis l'inquiétude, puis ça valait 1,50 $. C'est-à-dire que quand on a revendu ces données-là, on les a vendues pour 1,50 $. Imaginez. Vous donnez tout ce trouble-là pour 1,50 $, mais eux autres, on comprend que les fraudeurs voulaient en profiter pour faire beaucoup plus d'argent que ça, mais ça s'est liquidé, ça s'est bazardé pour une poignée de dollars, mais quand même, il reste que ça a eu un impact sur les gens de façon très importante. Et autre chose, vous vous souvenez là que au printemps dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, avait dit s'attendre à des entrées d'argent assez importantes parce que Ottawa est en train de créer un vaste, ou de financer avec les provinces, un vaste réseau de garderies à 10 $ à grandeur du Canada, un peu à l'image de ce qu'on a chez nous, là, nos fameuses garderies chez nous. Or, puisqu'on a déjà, nous autres, un programme sur lequel est en train de se baser le fédéral pour l'imposer à grandeur du pays, bien, on avait dit, parfait, nous autres, on n'aura pas besoin de votre programme, on va prendre l'argent et on fera ce qu'on voudra avec. Or, Ottawa est en train de négocier avec Québec, selon ce qu'on apprend ce matin dans le journal La Presse sous la plume de Joël-Denis Bellavance. On veut régler à Ottawa avant le déclenchement de la prochaine campagne électorale, de sorte qu'on imposerait très, très peu de conditions pour verser une somme de 6 milliards de dollars sur une période de 5 ans au gouvernement du Québec, qui en a bien besoin avec la pandémie. Souvenez-vous là, qu'on a annoncé que pour l'année en cours, c'est 15 milliards de déficit. Alors, dans les rangs libéraux, on souhaite ardemment conclure la négociation avec Québec avant le déclenchement des élections. Et on parle de quelques dates là, qui sont toujours possibles. Je vous en ai parlé déjà il y a deux dates, entre autres, qui sont envisagées. On parle notamment du 13 septembre ou encore du lundi 20 septembre pour la tenue du scrutin, ce qui voudrait dire que Justin Trudeau pourrait traverser pour se rendre à Rideau Hall, rencontrer la gouverneure générale pour dissoudre le Parlement quelque part entre le 8 et le 15 août prochain, pour un déclenchement d'élection qui permettrait une campagne de 36 jours ou tout au plus 50 jours, mais on pencherait davantage pour une campagne plus courte. Alors, il y a ces dates-là qui circulent, mais il y a aussi d'autres dates, je pense le 3 octobre, et il y a aussi le 10 octobre qui circule en ce moment comme date possible d'élection. Et tiens, je vais terminer avec cet article. On vous a parlé de la maman de ce jeune qui s'est fait frapper alors qu'il était au guidon de sa mobylette, de son scooter avec une de ses amies. Ça s'est passé il y a deux semaines dans le secteur de Deux-Montagnes. Eh bien, la mère de cet adolescent de 15 ans qui a frôlé la mort après avoir été happé par ce chauffard ivre à Deux-Montagnes trouve inexcusable le comportement du conducteur. On lui a parlé, il s'agit de Geneviève Gagné, on lui avait parlé il y a deux semaines et elle disait ne pas comprendre comment un pompier, en fait, qui a subi une formation de pompier, donc qui normalement doit sauver des vies, avait pu se mettre dans une situation où il a mis en danger la vie d'Adam, le fils de Mme Gagné, qui incidemment est sorti du coma. Quand on a parlé à Mme Gagné la semaine dernière, son fils était toujours dans le coma. Il s'est réveillé vendredi après plusieurs jours, bien sûr, passés dans l'obscurité. Il devra cependant rester à l'hôpital pendant encore plusieurs semaines. Les médecins sont encouragés quand même, mais il reste qu'il est dans un état toujours jugé comme étant sérieux. Il était au volant de son cyclomoteur quand le 18 juillet, vers 2h30 du matin, il s'est fait frapper par une voiture. Et le conducteur de la voiture affichait un taux d'alcool deux fois et demi supérieur à la limite tolérée. Et on dit qu'il est sorti du coma. Les prochains jours s'annoncent difficiles pour lui. Surtout qu'il n'y a aucun souvenir de l'événement. C'est souvent le cas dans les accidents de ce type-là où il y a commotion, bien sûr, cérébrale. Et pour lui, il est encore chez McDo avec ses amis, a dit Mme Gagné en entrevue à TVA. Il dit, là, il se retrouve le lendemain couché dans un lit, puis il a de la misère à bouger ses muscles et à s'exprimer. Alors, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Sa jeune amie, Yara, c'est également passagère du scooter au moment de l'accident, a elle aussi subi des graves blessures. Elle est toujours hospitalisée, va devoir réapprendre à marcher, juste pour vous dire à quel point ça peut être pénible et difficile physiquement.